Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un quatrième volet d'entretien dans cette série des clés pour vivre consacrée à Saint-Pierre Giorgio Frassati et un livre qui est paru récemment aux éditions du Cerf avec ce sous-titre L'audace de la sainteté, écrit par frère Charles Desjoubert, que j'ai la joie donc d'accueillir dans ce quatrième entretien. Bonjour frère Charles Desjoubert.
Bonjour.
Alors ravi de vous accueillir. Alors nous évoquons depuis le début de cette semaine cette figure d'un jeune Italien qui est décédé à l'âge de 24 ans. Il est tout donné, il est dans le service, il est aussi dans cette joie de la rencontre. L'amitié est importante pour lui, il connaîtra aussi ses douleurs, ses luttes, ses non-compréhensions aussi, et des relations tendues, vous l'avez dit, érodie avec ses parents. Alors dans une Italie marquée par le fascisme, Pier Giorgio choisit la résistance et vit une vie, au fond, et vous l'avez décrit très bien, spirituelle, exigeante. Il sera, on en parlait un peu pour préparer ces entretiens, il a une idée très précise de notre pays, la France. Voilà, je rappelle qu'il est mort en 1925. Voilà, que dit-il de notre pays, de la France, hein? Et vous souriez déjà. Je crois qu'il est particulièrement sévère et dur envers la France. Mais il y a le contexte aussi. Hein.
Exactement. Ouais, oui. Il faut voir que Pier Giorgio vit dans cette Europe déchirée, hein, qui sort de la Première Guerre mondiale. Il est adolescent pendant la Première Guerre mondiale. Il a 17 ans quand elle prend fin et il meurt en 1925. Et il est italien. Il a son père qui est ambassadeur à Berlin, donc lui, il y passe beaucoup en Allemagne. Il est très sévère envers la France de ces années-là. Pourquoi ? Parce que cette France qui, dans certaines de ses lettres, qu'il va jusqu'à appeler « fille des ténèbres », eh bien, cette France, pour lui, c'est la France qui n'est pas fidèle aux promesses de son baptême, qui ne se montre plus comme fille aînée de l'Église, comme on le dira, c'est-à-dire une France qui est marquée aussi par la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et pour cet Italien, il y a quelque chose d'incompréhensible dans cette France. Et puis surtout, il voit très bien, lui qui a un père fin politique, que les résolutions du traité de Versailles vont conduire toutes les nations européennes à leur perte. Et il l'écrit dans certaines de ses lettres, hein, il dit les résolutions ruineuses de cette première guerre vont finir par aboutir à une nouvelle guerre. Et ça, il l'écrit dès les années 20. Donc il y a quelque chose chez lui de très clairvoyant. Il est très prophétique. Il est très équilibré.
Il est visionnaire et prophète à la fois.
Il est prophète, là. On peut vraiment dire qu'il est prophète et visionnaire. Et ça, ses amis le diront, hein, qu'il avait un regard visionnaire. Il avait un regard d'une profondeur et d'une limpidité incroyable. On sentait quelqu'un qui était habité en profondeur et qui comprenait bien les implications de son temps. Alors, il va s'investir en politique. Hein. Son action ne se limite pas aux bonnes œuvres, mais elle se poursuit par un engagement politique très réel. Oui.
Un appel aussi peut-être pour cette génération de jeunes. Parlons un peu de la France, de ce pays. Un exemple pour les jeunes qui souhaiteraient peut-être entrer, permettez-moi. Il est entré en résistance.
Oui, il entre
Pierre
en résistance.
Giorgio Frassati. Et avec une démarche hautement spirituelle.
Oui, hein, il a une manière d'aborder sa foi toujours la vie politique de manière toujours très, très authentique et puissante et de manière très ajustée. On le sent qu'il réfléchit aux questions, il en parle avec ses amis. Hein, et donc quand on a la marche sur Rome en 1922 et l'arrivée du fascisme, il va rentrer en résistance contre le fascisme, mais il ne se laisse pas non plus séduire par le communisme, qui va chercher les ouvriers et les pauvres. Et lui, on le voit à l'entrée des usines, résistant contre les ligues communistes profondément antichrétiennes. Et donc, il a cet équilibre très sain, je trouve. Donc, il adhère au Parti populaire italien, qui est ce premier parti républicain, mais catholique, qui s'appuie sur Rerum Novarum, donc la pensée de Léon XIII, que Léon XIV, notre pape, remet en valeur aussi en reprenant ce nom de Léon. Donc, cette pensée sociale de cette Église qui va de nouveau à la rencontre des ouvriers qu'elle avait un peu délaissés et qui s'étaient sentis attirés finalement par la vision par exemple que le communisme pouvait proposer. Donc Pier Giorgio va rentrer en lutte contre cela, mais il ne cède pas aux sirènes du fascisme un peu facile qui cherche aussi à séduire le catholicisme. Et donc Pier Giorgio se tient là. devant Dieu, je pense, en véritable authenticité, n'hésitant pas à résister. Hein. Il va faire partie de processions religieuses. Il aura quelques heures de garde à vue, d'ailleurs. Et donc, il prend un peu de temps, parfois. Je ne sais pas ça, mais je le dis peut-être avec un petit peu de malice, avant de révéler qu'il est le fils du sénateur, parce qu'évidemment, à ce moment-là, les portes de la prison s'ouvrent. Mais Pier Giorgio, voilà, marque les choses. Il va être furieux quand le cercle Cesare Balbo mettra son drapeau pour accueillir Mussolini. Et là, il va de manière fracassante dire « je démissionne, je m'en vais ». Et puis finalement, il reviendra un peu sur sa décision en y réfléchissant. Et donc, il ne prend pas des positions de principe seulement. Il les ancre vraiment dans sa foi. Il n'hésite pas à revenir dessus s'il sent qu'il s'est fourvoyé. Et donc là, il y a quelque chose de très juste, de très authentique.
Et toujours ces engagements que vous décrivez, ces résistances, ces combats, c'est au nom de l'amour. Ce sont des actes posés, des actes de charité. Toujours, vous parlez de Pier Giorgio Frassati en parlant d'authenticité et en évoquant toujours cette vérité, une exigence pour lui qui fait partie aussi intégrante de sa personnalité.
Oui, être authentique, et il le dit très bien dans un discours qu'il fait alors qu'il a 21 ans, vous imaginez, à 21 ans, il fait un discours aux jeunes assez complet, et je vous en lis quelques passages. « Mes amis, vous n'avez pas besoin d'entendre rabâcher pauvrement des choses déjà tant de fois entendues. Cependant, la gravité de la question est telle que je ne crois pas inutile de répéter ces choses si anciennes. Chacun de vous sait que la base fondamentale de notre foi est la charité, sans laquelle notre religion tout entière s'effondrerait. La foi catholique est fondée sur le véritable amour, et non, comme le voudraient tant d'autres, pour tranquilliser leur conscience, sur la violence qu'ils prennent pour fondement de la religion du Christ. » Et là, ils visent aussi certaines ligues très violentes. « La violence sème la haine, et l'on récolte ainsi les fruits néfastes de ses semailles. Mais avec la charité, on sème la paix chez les hommes, non point la paix du monde, mais la vraie paix, que seule la foi en Jésus-Christ peut nous donner, et quelque chose de très important dans ces années-là, en nous rendant fraternels les uns aux autres. » Et il va être très impliqué, Pier Giorgio, nous rendant fraternels les uns aux autres, il va être très impliqué dans ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix de l'Église, l'internationale de l'Église. Hein. C'est-à-dire que l'Église catholique, dans ces années-là, travaille à tisser des ponts entre les jeunes des différents pays européens, entre l'Allemagne et l'Italie, entre l'Italie et la France, entre la France et la Suisse, etc. Tisser des ponts qui aujourd'hui nous paraissent relativement naturels à l'heure d'Erasmus, à l'heure d'un certain nombre d'échanges étudiants, mais qui ne va pas du tout de soi. Et tisser des ponts entre les étudiants, c'est tisser des ponts aussi entre les soldats, entre ceux qui prennent les armes pour... Et Pier Giorgio est entouré d'amis qui font leur service militaire, qui sont pris par la guerre, etc. Mais par la foi, par les congrès eucharistiques, on ne réalise pas ça, à quel point l'Église catholique prépare l'avènement d'une Europe qui est capable de la paix, qui est capable d'entrer en dialogue et en discussion de pays à pays, où chaque pays est authentiquement lui-même, mais où chaque pays dialogue, répond et s'investit. Et Pier Giorgio, lui, est profondément investi là-dedans.
Vous encouragez, profitons aussi de cette figure de Pier Giorgio Frassati. Nous connaissons l'actualité mondiale, nous connaissons aussi l'actualité de notre pays, de la France. Que dirait-il à des jeunes qui voudraient peut-être résister, et pourquoi pas dans ce service, dans cet engagement, un engagement en politique?
Eh bien, il dirait, nous avons une exigence, nous les jeunes, c'est la formation de nous-mêmes. Formez-vous, formons-nous. Et Pier Giorgio invite à se former en matière de foi, en matière de politique, en matière de vie économique, de travail. Et donc, que le temps des études ne soit pas que le temps d'une formation pour un métier, mais le temps d'une formation intégrale au service de la société. Et rentrer en politique, c'est se mettre au service des autres, évidemment. Et pour Pier Giorgio, c'est évidemment avoir des idées politiques comme laïque, c'est quelque chose d'essentiel. Et des saints comme ça engagés, alors il prendra le nom de Jérôme Savonarole, parce qu'il est laïque dominicain, Pier Giorgio. Et donc, il va s'engager. Alors, il prend le nom de cette figure très, très à la fois controversée et maximaliste. Mais il, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien, il veut dire, oui, formez-vous, formons-nous. Et oui, c'est important de s'engager. C'est pour des laïcs, notamment, de s'engager en politique. C'est quelque chose d'important. Parce
et un
que,
acte de charité.
Et c'est un acte de charité pour la société. C'est se mettre au service des autres, à condition, attention, de ne pas ruiner sa conscience face à la politique. Et donc, il dit, pour des petits arrangements politiques, les hommes sont trop souvent prêts à fouler aux pieds leur conscience. Eh bien, garder cette conscience vive et allumée qui permet de discuter en vérité et qui fait que ses opposants politiques étaient marqués par Pier Giorgio et vont dire de lui, il agissait comme il croyait, il faisait comme il disait, il agissait, oui, il croyait comme il pensait. Oui.
Donc, ce ne sont pas que des paroles, mais ce sont des actes posés en charité, et puis toujours dans cette justesse de rester aussi, de demeurer dans la vérité, et au fond, cette vérité à l'écoute aussi des valeurs aussi de l'Évangile.
Évidemment.
Tous les actes, toutes les paroles posées par Saint-Pierre Giorgio Frassati, ce sont des actes d'Évangile, on est bien d'accord. Frère Charles Desjaubert, auteur de ce livre, L'audace de la sainteté. Chers auditeurs, je vous conseille de découvrir cette belle figure de sainteté. Il y a de nombreux écrits. Il y a également aussi de nombreuses lettres, de vraies correspondances de Pier Giorgio avec des amis. Voilà, peut-être que nous pourrons dès demain conclure cette série avec ces belles correspondances, signes aussi de fraternité, mais dans cette amitié qui est vraie, authentique, profonde, et dans l'exigence aussi, et toujours dans cette verticalité qui nous invite à regarder vers le haut et vers cette éternité. À demain, frère.
Merci.